Bonjour et bienvenue dans The Banana Split Project, le premier podcast qui épluche l'identité des Français et francophones d'origine asiatique revenus vivre en Asie. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Facebook et Instagram @banana.split.project. Aujourd'hui, pour la première fois, j'invite une Suisse d'origine vietnamienne qui est installée à Singapour. Alors, est-ce que vraiment Singapour, c'est la Suisse de l'Asie? Est-ce que en tant que Viet Kieu, c'est-à-dire de la diaspora vietnamienne, on a plus de chances de trouver un travail au Vietnam? Kim est née en Suisse, où ses parents étaient partis y étudier avant la guerre. Elle a grandi à Lausanne, sort diplômée de l'école polytechnique. À 12 ans, elle passe un an à Singapour, où son père est expatrié, ce qui lui donnera envie d'y revenir. Elle est donc maintenant installée à Singapour depuis 6 ans, mais le Vietnam l'attire et la fascine, tant pour remonter le fil de sa lignée princière que pour les opportunités de travail qu'il offre, et notamment pour les Viet Kieu. Bonjour Kim Van Hodak.
Bonjour Viviane, merci de m'accueillir sur ce podcast. Alors, donc je suis suisse d'origine vietnamienne, donc née en Suisse, avec un passeport suisse. Donc l'histoire de ma famille, c'est que mes deux parents sont nés au Vietnam, à Saigon. Ils ont fait leurs études au lycée français Marie Curie, exposés à la culture française. À 18 ans, ils ont eu l'opportunité de partir dans un pays francophone pour faire leurs études. Et ils ont choisi la Suisse, les deux. Et ils ne se connaissaient pas encore très bien au Vietnam. Et ils se sont rencontrés en Suisse, ils ont fait connaissance et donc du coup, je suis née ainsi que mon grand frère.
Est-ce qu'ils ont fui la guerre ou c'était juste une opportunité pour leurs études en fait? C'était avant?
Alors pour mes deux parents, c'était une opportunité pour faire leurs études en Suisse. J'ai une partie de ma famille qui a fait aussi le boat people et la guerre.
D'accord, donc tes parents ont échappé
Ils ont tout simplement décidé de rester en Suisse.
Oui,
quand
oui.
Il y a eu la guerre qui a éclaté, ils étaient bien.
Ils étaient partis avant.
Voilà. Donc ils sont bien intégrés, ils ont fait la naturalisation avec Suisse.
Donc toi, quand tu as grandi, comment tu étais perçue en Suisse? Est-ce qu'il y avait beaucoup de Vietnamiens? Est-ce que tu étais au sein d'une communauté asiatique? Raconte-moi un petit peu ton enfance et ta jeunesse en Suisse.
Alors, la communauté asiatique en Suisse n'est pas aussi développée que la France. Typiquement, il n'y a pas de Chinatown, il n'y a pas de quartier de 13e comme à Paris. On a quand même une certaine communauté vietnamienne. À l'époque de mes parents, donc ils aimaient bien se retrouver entre eux. Ils se connaissent tous entre eux. Alors que la génération des enfants, donc moi, ce n'est pas forcément le cas. Après, on avait la possibilité de participer à des événements communautaires, mais à part une fois de temps à autre participer au Nouvel An vietnamien, j'ai pas forcément plus que ça l'envie de me retrouver en communauté avec des Vietnamiens.
Ouais. Et est-ce qu'à la maison vous parliez aussi vietnamien ou non, c'était juste français?
Donc on parlait les deux, donc mes parents me parlaient en vietnamien et comme j'étais paresseuse, je répondais en français. Et donc du coup, je comprends très bien le vietnamien, mais j'ai beaucoup perdu le vietnamien.
Donc ensuite, tu as fait tes études en Suisse, c'est ça? Tu as commencé à travailler en Suisse et tu as décidé de venir à Singapour. Pour quelle raison?
Mon histoire avec Singapour, elle a commencé en 1996 où mon père a eu l'opportunité de partir en tant qu'expatrié et est resté au total 6 ans. J'avais 12 ans.
Donc tu étais à Singapour déjà en tant qu'adolescente, tu étais au lycée français ici, c'est ça?
Exactement, j'ai changé le système, donc je suis passée au lycée français parce qu'à l'époque il n'y avait pas de la langue française n'existait pas au lycée suisse. C'est une étape très importante de ma vie où ça m'a ouvert en fait, ça m'a ouvert mes horizons. Et donc du coup, après quand je suis entrée en Suisse quand j'ai commencé en fait les études à l'université, il n'y avait plus qu'une seule obsession en tête, c'était de partir à tout prix de la Suisse. J'ai fait plusieurs tentatives de partir à l'étranger, donc c'était pas forcément l'Asie à ce moment-là, c'était plutôt le rêve américain comme les États-Unis, le Canada, j'ai essayé aussi la Suède, tous ces plans-là ont échoué, j'ai essayé de partir en stage, ça n'a pas marché. Après avoir travaillé pendant à peu près une année dans le consulting IT, j'ai voulu travailler en banque. Donc j'ai postulé en fait dans une banque française et en faisant des recherches avant pour me préparer à l'interview, j'ai vu qu'ils avaient une succursale à Singapour et en allant à l'interview, je me suis dit ah ben ça peut être sympa, je pourrais travailler là-bas, je pourrais rester 5 ans dans cette entreprise et puis travailler là-bas. Plus exactement 6 ans après, ça s'est fait. D'accord. J'ai réussi à avoir une mutation interne à Singapour et le rêve était accompli.
Singapour, ça t'est resté dans la tête comme un rêve d'enfant, c'est ça? Enfin, qu'est-ce que tu as aimé quand tu as vécu ici de 12 ans à 18 ans? Alors, c'est ça, c'était de 12 ans à 18 ans?
Alors, en fait, mon père est resté au total 6 ans. Mmh. On est resté une année et on a fait des va-et-vient. On venait deux fois par année. Pour moi, c'était vraiment la découverte de la nouveauté. J'étais ouverte à ça. C'est tombé comme sur un plateau d'or. J'ai pris l'opportunité et j'ai adoré cette expérience. Quand on vit dans son propre pays, on côtoie en fait toutes les couches sociales. Quand on part en tant qu'expatrié, on est quand même, il faut dire, on fait partie quand même d'une sorte d'élite très privilégiée, ouais. Des gens qui ont la possibilité de partir à l'étranger, qui occupent des postes à responsabilité. Donc, c'est pas forcément le même type d'environnement. Quand on est dans son propre pays, enfin déjà on est différent des autres. J'ai pas forcément vécu énormément de racisme, c'est plutôt des petites moqueries comme ça à l'école. J'étais la seule asiatique dans ma classe.
Ensuite,
toutes les classes, j'étais toujours la seule asiatique, mais je n'ai pas eu de discrimination.
Ça t'a pas dérangé plus que ça?
Voilà, moi je le mets plutôt sur le compte du fait qu'ils sont pas exposés à la culture asiatique, ou alors ils ont vu des asiatiques à la télévision et ils pensent que l'Asie c'est la Chine et le Japon, c'est tout.
Oui, c'est un manque de connaissances.
Manque
en
de
fait,
connaissances, voilà, exactement.
Manque d'éducation, ouais, tout simplement d'ouverture. Donc ça fait 6 ans que tu es maintenant à Singapour. Est-ce que le fait d'être à Singapour, ça te rapproche de ton pays source, on va dire, de tes racines vietnamiennes? Est-ce que ça te donne envie de connaître plus le Vietnam, d'y aller plus souvent, d'avoir plus de contacts avec ta famille qui a pu rester là-bas?
Alors effectivement, c'était une opportunité de se rapprocher du Vietnam, sachant que je n'ai jamais eu l'opportunité de partir au Vietnam quand j'étais en Suisse. J'ai toujours voulu y aller, mais avec les miens, c'est-à-dire avec des gens de ma famille qui sont... On appelle ces gens-là les Viet Kieu. C'est un terme péjoratif vietnamien pour désigner la diaspora vietnamienne, donc les Vietnamiens qui sont à l'étranger. Et donc, mes parents étaient retournés deux fois. Je n'avais pas pu avoir la possibilité de venir avec eux, mais j'ai toujours voulu y aller avec les miens en premier. Vraiment le voyage initiatique avec les miens. Et donc, en venant à Singapour, je me suis dit, on est à une heure d'avion du Vietnam. Tout le monde va là-bas en week-end. Il faut quand même que j'y aille. Et... j'y suis allée pour la première fois avec une amie aussi suisse, donc
vietnamienne aussi ou
vietnamienne, donc moitié espagnole et moitié vietnamienne, mais il y avait quand même ce lien, donc c'est pas, mm-hmm. Elle fait pas exactement partie de ma famille, mais on a quand même quelque chose en commun. Donc son père est vietnamien et nos deux pères se connaissent.
D'accord.
Et donc son père habite maintenant au Vietnam et donc on a voyagé ensemble au Vietnam. J'ai aussi eu l'occasion d'y aller avec ma cousine. Et donc voilà, c'était vraiment une opportunité de me rapprocher de ma culture.
Et quelles ont été tes premières impressions? Alors, ce premier voyage que tu as entrepris en étant adulte avec ton ami?
En fait, j'étais allée à Ho Chi Minh. J'ai trouvé que c'était agréable comme ville. Et je me suis dit, ça me dérangerait pas d'aller travailler ici. Mais je me suis plutôt sentie comme étant une touriste qui voyage, qui découvre un nouveau pays. Ouais. Je me suis pas forcément sentie... chez moi, même si je parle le vietnamien, même si je suis familière avec pas mal de choses comme la nourriture et tout.
Donc, tu disais que tu avais eu la possibilité de partir travailler au Vietnam éventuellement. Enfin, l'opportunité s'est présentée pour toi?
Oui, alors effectivement, maintenant, il y a une initiative de la part du gouvernement vietnamien de faire revenir les Viet Kieu pour développer le business, le tourisme, etc. Et donc, avec un passeport suisse qui était très ennuyeux, c'est que je devais appliquer pour un visa à chaque fois. Et donc, j'ai décidé d'appliquer pour une exemption de visa. Donc, il faut juste, en fait, prouver qu'on a des origines vietnamiennes et on a une exemption de visa valide 5 ans. J'ai aussi beaucoup de recruteurs basés au Vietnam qui m'ajoutent sur LinkedIn parce que, justement, il y a vraiment cette volonté de faire revenir les Viet Kieu au Vietnam pour qu'ils partagent, en fait, leurs connaissances, leur exposition internationale. Et donc, récemment, j'ai eu une opportunité de partir à Hanoï. J'étais prête à faire mes valises et finalement, j'ai décidé de ne pas aller de l'avant pour des raisons de niveau de poste.
Oui, parce que le salaire au Vietnam, enfin le niveau de vie au Vietnam est bien plus en dessous de celui de Singapour. Donc effectivement, si toi, tu acceptes un poste au Vietnam, que ce soit à Ho Chi Minh ou à Hanoï, ce sera forcément avec une décote au niveau salarial, c'est ça?
Oui, le niveau de salaire est plus bas que la Suisse et Singapour. Après, sur des postes très élevés, il y a moyen de pouvoir avoir des bons niveaux de salaire. Et pour être honnête, J'ai pas forcément, en fait, la famille qui m'attend au Vietnam. J'ai pas l'intention de venir m'établir ou de prendre ma retraite. Donc, en fait, mon contexte est très différent. J'ai pas forcément l'objectif d'aller au Vietnam en lui-même. Cependant, les pays émergents offrent énormément d'opportunités auxquelles on n'a pas forcément accès dans des pays développés comme en Suisse et Singapour. Pour moi, c'est vraiment drivé par la carrière. Avoir un poste à responsabilité au Vietnam et là, on peut avoir des bonnes conditions.
Mais plus en termes de position stratégique, voilà. En termes d'intérêt du travail. C'est plutôt ça qui t'attire ou qui te freine plutôt que le niveau salarial.
Alors le niveau salarial, il est quand même assez important étant donné que bon malheureusement j'ai vécu en Suisse et à Singapour où les niveaux salariaux sont les plus élevés et quand on a vécu ça, personnellement je partirais pas à n'importe quel prix au Vietnam. C'est quand même un pays où c'est super de voyager, mais la vie est quand même plus difficile. Ce sera un choc culturel pour moi, pour être complètement honnête. En venant à Singapour, je n'ai pas eu beaucoup de chocs culturels, mais je pense que j'aurais énormément de chocs culturels au Vietnam. Donc, c'est quand même une décision qui se prend pas forcément à la légère. Cependant, je suis prête à prendre le risque et partir à l'aventure, mais c'est pas forcément focusé sur le Vietnam. Ça peut être n'importe quel autre pays émergent en Asie. Cela dépend beaucoup des opportunités.
Pourquoi tu penses que tu aurais forcément un choc culturel au Vietnam? À quel niveau? Au niveau professionnel ou dans la rue, dans la vie de tous les jours?
À tous les niveaux, je dirais. Déjà, au niveau de la langue, je parle un vietnamien qui est, on appelle ça le vieux vietnamien. Donc, j'ai des expressions, en fait, que j'ai pris de mes parents et que la langue d'aujourd'hui, que pratiquent les vietnamiens, ils ont d'autres expressions. Bon, après, ça s'apprend très vite. J'ai aussi beaucoup perdu mon vietnamien, mais c'est aussi quelque chose qui peut se pratiquer. Ça, c'est pas un souci. Il y a aussi les habitudes de travail. Donc, moi, je viens quand même d'une culture suisse où on est à l'heure, on est honnête. On fait les choses proprement, il y a quand même une certaine efficacité. Et au Vietnam, il faut apprendre à être plus agile. Il y a des choses se font sous la table. Après, il faut lire en fait entre les lignes. Il faut pas forcément prendre les choses au premier degré. Et donc toutes ces
c'est des codes complètement différents.
Ouais. C'est des codes auxquels je ne suis pas du tout habituée.
Tu disais que le gouvernement veut faciliter le retour des Viet Q.
Alors il y a plusieurs axes. Déjà en fait, le visa permet aux Vietnamiens de revenir au Vietnam pour une durée, je crois, de 6 mois si je ne m'abuse. Maximum. Et en fait, ça permet déjà de se reconnecter à sa culture, de faire un voyage prolongé, de rester là si on le souhaite, de faire son réseau. Mais aussi, ces voyages plus ou moins prolongés permettent en fait de trouver des opportunités de développer du business potentiellement sur place. Tout ce qui est scène, start-up et tout, ça se développe quand même assez bien au Vietnam. L'opportunité sur laquelle j'étais, c'était un grand conglomérat vietnamien. Ils font tout. Ils font de l'immobilier, ils font des écoles. L'opportunité sur laquelle j'étais, c'était plutôt sur le plan technologique. Cette société essaye de recruter vraiment des Vietnamiens qui sont à l'étranger et sont vraiment fiers de montrer qu'ils ont recruté des gens de Google aux États-Unis, de partout dans le monde. Et ils ont une préférence de recruter des VQ plus que des expatriés. Il y a quand même une sorte de discrimination de la part des Vietnamiens contre les Viet Q. Mais je pense qu'avec le temps, que le pays change très, très, très rapidement. Et du fait que les Viet Q peuvent amener énormément au pays, ils peuvent aider le pays à se développer, ouais. à réduire les niveaux de pauvreté, etc., ce sera très bénéfique.
Parce qu'il y a une discrimination, certes, mais il y a quand même une proximité. Il y a comme une proximité, une familiarité qui est plus forte envers des Viet Q que d'autres expats.
Exactement.
Quand même.
Donc il y a déjà la langue, il y a le fait qu'on connaisse un peu la culture.
Ouais. Alors on parle beaucoup de business, mais ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles tu t'intéresses au Vietnam, bien sûr. Tu es retournée aussi pour retrouver tes racines, pour redécouvrir l'histoire de ta famille, c'est ça?
C'est ça, exactement. Donc en fait, je suis descendante de la dernière dynastie, Nguyen. Il y a eu le premier empereur, le deuxième empereur, et ça s'est séparé à partir du troisième empereur. Donc ça remonte à 6 générations. Et donc, j'ai fait un voyage il y a 3 ans en arrière avec cet ami moitié espagnol, moitié vietnamien d'ailleurs. Donc on est allé à Hue, donc c'est la cité impériale, et j'ai visité le tombeau des deux premiers empereurs. C'était une première découverte initiatique.
C'est presque mystique, en fait, là, de reconnecter avec 6 générations au-dessus, une lignée princière.
C'est assez renversant comme expérience. Il va falloir que je continue, parce qu'il y a énormément de choses à connaître par rapport à cette lignée. Quand on va à Hue, on peut y rester 3 jours, on peut faire tous les tombeaux de tous les empereurs, on peut faire la cité impériale, etc. Il y a énormément de choses à découvrir sur l'histoire. Il y a eu aussi des relations très, très fortes entre le Vietnam et la France à cette époque-là. Donc le Vietnam, c'était une ancienne colonie française et c'est le dernier empereur à émigrer en France, à décéder en France. 2007, si je ne m'abuse. Donc, je l'ai pas connu personnellement, ouais. Mais je pense que certains descendants ont dû le connaître.
D'accord. Et donc toi, tu es de la branche.
Donc ça remonte à 6 générations, donc il y a eu forcément énormément de descendants.
D'accord, d'accord, d'accord.
Ouais. Donc la royauté se transmet de père en fils aîné, ouais. Et à partir de la 3e génération, ça s'est séparé, donc je suis descendante du prince. Et donc j'avais un objectif, en fait, c'était de partir à la découverte de l'histoire de ce prince. Et ouais. Donc je n'ai pas eu le temps lors de ce voyage-là de connaître son histoire, parce que ce sera pas forcément quelqu'un qui sera connu.
Est-ce que tu as des documents, est-ce que tu as des objets qui ont été transmis dans ta famille?
J'ai une photo d'une vieille photo. J'ai eu l'invitation en fait aux obsèques du dernier empereur auquel je n'ai pas pu assister parce que j'étais en Suisse. Sinon, j'ai eu un membre de ma famille qui a en fait retracé tout l'arbre généalogique, et donc du coup du premier empereur jusqu'à moi, j'ai pu retracer en fait qui sont les gens qui étaient entre deux.
Une question que je pose à tous les invités, c'est qu'est-ce que c'est pour toi d'être une banane? Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Pour moi, une banane, c'est jaune à l'extérieur, blanc de l'intérieur. C'est un terme que j'ai découvert pendant un voyage que je faisais d'ailleurs à Singapour. J'étais venue rendre visite à Nami, qui est suisse, mais d'origine coréenne, donc mix moitié suisse, moitié coréenne. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler du terme banane. Pour moi, la Suisse, c'est un passeport. C'est un passeport qui est très, très pratique. J'en suis fière, mais j'ai pas forcément besoin de le revendiquer. Et les seules fois où je précise que je suis suisse, c'est quand on me demande d'emblée ici si je suis française, parce que je parle français ou j'ai un accent français un peu. Donc je précise juste que je suis suisse, mais c'est pas forcément pour un but patriotique. Et j'irai pareil pour le Vietnam. Je suis consciente, fière de mes origines, mais j'ai pas forcément besoin de le revendiquer haut et fort.
Et Singapour? C'est ta maison?
Alors, en venant ici, je me suis sentie chez moi. Mais je pense qu'il y a un moment où ce sera bon de changer.
On dit souvent que Singapour, c'est la Suisse de l'Asie. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est exactement la Suisse de l'Asie. Il y a beaucoup de points communs entre la Suisse et puis Singapour. Déjà, en termes de valeurs, les gens sont honnêtes, les gens ils sont à l'heure. C'est un pays qui est très propre, très safe. Et en termes de culture de travail, on a vraiment des valeurs très similaires. Donc, il n'y a eu quasiment aucun choc culturel. Je suis venue à Singapour. Et il y a un drapeau rouge et blanc.
Ça aide. D'accord. Tu connais d'autres Suisses ici? Tu les fréquentes aussi ou...
Je connais bien la communauté suisse de par mes activités. Donc, en fait, en venant ici, j'ai décidé de monter le réseau Alumni de mon école, qui est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et donc, j'ai voulu, en fait, établir ce projet pour avoir un plan, pour avoir un certain ancrage. Je voulais en fait encourager une certaine circulation entre l'Occident et l'Orient, et c'était un moyen parmi d'autres de le faire. Et donc du coup, je suis en contact très étroit avec l'ambassade suisse, mais également l'ambassade française.
Et quel est le but pour toi?
Pour moi, c'est de favoriser les échanges, de circuler, d'échanger, de développer le business, d'aider les gens à s'établir dans les deux sens.
Entre Singapour et la Suisse.
Voilà. Mais ce n'est pas forcément que Singapour et la Suisse, ça peut être toute l'Europe avec toute l'Asie. Mais après, il y a des points d'ancrage. Je ne suis pas forcément en contact qu'avec des Suisses, ça peut être des francophones. J'ai des gens venant du Luxembourg, de la France, à venir s'établir à Singapour. Là, j'essaye d'encourager des gens à partir au Vietnam, des Vietnamiens comme moi à partir au Vietnam, à partager en fait des conseils basés sur mes expériences que j'ai pu avoir.
Est-ce que tu te sens comme un pont entre...
Un pont, ouais. Ce que je voulais, c'est vraiment établir un pont entre l'Occident et l'Orient, de manière générale, sans focus précis. Mais après, je participe à plusieurs projets pour pouvoir m'ancrer et faire des actions concrètes.
Des actions plutôt business, ou est-ce que tu regardes aussi le côté humanitaire, le développement social?
Alors, je regarde aussi du côté humanitaire. J'ai fait plusieurs voyages en Inde. J'ai un contact, en fait, qui cherche, en fait, à développer, les projets humanitaires, bien-être en Asie. Donc, je regarde vraiment sur tous les plans. Il n'y a aucune limitation.
D'accord. Donc, on peut te contacter si on a envie de venir en Asie.
On peut me contacter avec plaisir.
Kim, est-ce que tu as un message pour nos auditeurs, toi qui es en train d'encourager tous ces mouvements entre la Suisse, Singapour, mais pas seulement, tu me disais l'Europe, l'Asie, et tu me parlais aussi du Vietnam qui recherche des ressortissants vietnamiens à l'étranger pour qu'ils viennent redévelopper le pays. Est-ce que tu as un message particulier à faire passer? Est-ce que tu as un mot de la fin?
Le fait d'être d'une banane, on n'appartient ni à l'un ou l'autre des clans. on va toujours détonner avec le paysage quoi qu'il arrive. Après, on a quand même un cadeau énorme, c'est que on est vraiment un brassage de toutes ces cultures. Donc il y a eu un mouvement de la part de mes parents du Vietnam vers la Suisse et maintenant je fais le mouvement inverse. Et donc vraiment moi ce que j'encourage c'est vraiment de partir en fait, partir explorer, découvrir sa propre culture et en fait partager ses expériences le plus possible. Essayer de la transmettre que ce soit à ses enfants, à ses amis, à n'importe quelle personne qu'on peut aider. Ça peut être aussi d'aider les gens dans le pays dans lequel on se trouve aussi. Les encourager aussi à découvrir son propre pays.
Oui, je pense que c'est important. Si tu veux favoriser l'ouverture d'esprit, les brassages, les mélanges,
voilà, la circulation.
Ouais. Ben merci Kim, merci pour ton message et j'espère que ça va inspirer des personnes à sauter le pas et à tenter l'aventure en Asie.
Merci, j'encourage vraiment, vraiment, vraiment à sauter le pas. Je ne le regrette pas du tout. Il y a énormément de gens qui ont franchi le cap.
Et on sera là pour vous accueillir à Singapour.
Exactement.
Merci, Kim.
Merci, Viviane.
Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Aidez-nous à nous faire connaître et à promouvoir la diversité et la connaissance de toutes ces origines si variées. Et si vous souhaitez vous aussi témoigner, contactez-moi via notre page Instagram @banana.split.project. À bientôt !